Vous écoutez France Culture.
Réplique, Madame Bovary, c'est qui ? Avec Yvan Leclerc et Michel Vinocq. Les admirateurs de Flaubert se divisent en deux catégories, sinon même en deux camps. Ceux qui préfèrent Madame Bovary et ceux qui placent plus haut que tout l'éducation sentimentale. Il y a quelques années, j'ai relu l'éducation sentimentale pour une émission avec Claude Habib et Pierre-Marc de Biasi. J'ai été ébloui par le texte et enrichi par l'éclairage très précieux que lui ont apporté mes deux hôtes. Mais je le confesse, je garde une dilection particulière pour Madame Bovary. J'ai donc décidé d'écouter mon cœur en invitant aujourd'hui, pour parler de ce roman, Michel Vinocq, auteur d'une biographie de Gustave Flaubert, aussi fouillée que fluide, et Yvan Leclerc, qui dirige le centre Flaubert de l'Université de Rouen. Je commencerai par une question que je me pose depuis longtemps. « Madame Bovary, c'est moi ». Cette phrase si fameuse, Flaubert l'a-t-il écrite, l'a-t-il prononcée, ou bien est-elle apocryphe ? Et dans tous les cas, nous dit-elle quelque chose du rapport singulier entre l'auteur et sa plus illustre créature, Michel Vinocq ?
Madame Bovary, c'est moi. On n'a jamais trouvé dans les écrits de Flaubert une telle phrase qui est probablement apocryphe. Il a même dit le contraire. Bovary aura été un tour de force inouï, sujet, personnage, effet, etc. Tout est hors de moi. Cependant, il y a quand même quelques vérités dans cette phrase, Madame Bovary, c'est moi. Pour deux raisons, je dirais. Flaubert, d'abord, a éprouvé comme son héroïne, et même de manière obsédante, l'ennui, la mélancolie, pour des raisons diverses. D'abord, sa maladie nerveuse, une forme d'épilepsie. Sa solitude accroissait pendant de longues années à côté de sa maman, puis tout seul. Ses deuils, il perd très tôt sa jeune sœur qui l'adorait, son père, son grand ami, etc. Et il peut dire « le désespoir est mon état normal ». Alors, il a vécu, comme son héroïne, le décalage entre ses aspirations. N'oublions pas qu'il est profondément romantique, Flaubert. Alors, il a des aspirations qui dépassent évidemment le commun des mortels. Et puis, cet écart entre ses aspirations et puis la trivialité de la vie sociale au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle. Alors, comment y échapper ? Eh bien, comme Emma Bovary, évidemment, par le rêve, par la révolte aussi. La révolte, il faut voir les cris qu'il pousse contre son époque, etc. Alors la différence, évidemment, c'est que lui, c'est un homme, qu'il jouit d'une liberté que n'ont pas les femmes à son époque, qu'il peut voyager, etc. Mais il y a, je crois, une solidarité avec son héroïne, en particulier à la fin. Au moment de l'agonie d'Emma, on sent vraiment une solidarité. Puis il y a une deuxième raison pour laquelle, au fond, Madame Bovary, c'est moi, c'est pas tout à fait faux, c'est l'empathie de l'écrivain avec son personnage. Une empathie qui va si loin que, nous racontent les frères Goncourt, au moment où ils rédigent l'agonie, le suicide de Madame Bovary, suicide à l'arsenic, il va vomir deux fois. C'est dire à quel point il se met dans la peau, on peut dire, de son héroïne. L'empathie. Mais enfin, Il faut aussi voir la distance qu'il a vis-à-vis d'Emma Bovary. Il s'en moque aussi.
Il s'en moque beaucoup.
Il s'en moque beaucoup. Il se moque de ses fadaises, de ses lieux communs, de son inspiration qu'il appelle lamartinienne, parce qu'il faut dire qu'il déteste Lamartine. Alors, vous voyez, donc, Madame Bovary, c'est moi. Oui, c'est assez vrai, mais quand même pas tout à fait.
Yvan Leclerc.
Oui, pour ajouter à ce que dit Michel Vinocq, on pourrait essayer de retracer la genèse de cette formule célèbre et sans doute trop célèbre. Elle a été écrite pour la première fois par René Descharmes dans sa thèse en 1909. Et alors là, un historien comme Michel Vinocq doit être sensible à la fragilité de cette transmission pour trois raisons. La première, comme disait Michel Vinocq, c'est qu'on n'a aucune source manuscrite de la part de Flaubert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de carnet de notes dans lequel Flaubert aurait pu écrire cette phrase. Et si on regarde le manuscrit de Madame Bovary, qui est maintenant entièrement disponible en ligne à l'adresse bovary.fr, ce n'est pas une annotation marginale. Alors ça, c'est la première raison. Deuxième raison de la fragilité de cette source, c'est que quand René Descharmes cite cette phrase, il y a eu deux intermédiaires entre Flaubert et lui. Puisque Flaubert aurait dit cette phrase à Amélie Bosquet, qui était une amie rouennaise de Flaubert, qu'il aurait elle-même répété à une personne qui l'a dit à René Descharmes. Donc il y a deux intermédiaires entre eux. Et on peut penser que la transmission n'est pas effectivement très fiable. Et puis il y a un troisième point, c'est qu'il s'est passé 40 ans entre le moment où Flaubert est censé avoir dit cette phrase à Amélie Bosquet, puisque se sont fréquentés entre les années 1859 et 1869, et le moment où René Descharmes enregistre cette formule, puisqu'il dit que la personne qui a connu Amélie Bosquet lui a dit récemment. Donc ces trois raisons font qu'effectivement, on peut penser qu'il s'agit d'une formule apocryphe. Alors peut-être que Flaubert l'a dite, on n'a pas de traces, on n'a pas d'enregistrement, on ignore également dans quel contexte il a pu dire cette phrase, et par ailleurs, il avait des relations relativement tendues avec Amélie Bosquet, il n'est pas impossible non plus que cette phrase soit ironique de la part de Flaubert.
Oui, alors essayons de réfléchir justement à la signification qu'elle peut avoir dans le sens de ce qu'a dit Michel Vinocq. D'abord, il faut se souvenir que Flaubert fait de l'impersonnalité une valeur, même la valeur suprême du romancier. Vous citez cette phrase, l'impersonnalité est le signe de la force, Michel Vinocq, il y en a d'autres, rien de ce qui est de ma personne ne m'intéresse, ma personnalité même me répugne, je ne veux pas considérer l'art comme un déversoir à passion. Et puis une autre phrase que je trouve très belle, qui prend à rebrousse-poil toute la mode contemporaine de l'autofiction, « Je crois que jusqu'à présent, on a fort peu parlé des autres. Le roman n'a été que l'exposition de la personnalité de l'auteur, et je dirais plutôt toute la littérature en général, sauf deux ou trois hommes peut-être. » Donc il ne s'agit pas d'être impersonnel pour coiffer la réalité humaine d'une sorte d'omniscience divine, mais il s'agit d'être impersonnel pour s'arracher à sa propre personne et, je citerai Emmanuel Carrère, d'une certaine manière, pour aller voir d'autres vies que la sienne. Donc, dans un premier temps, on peut penser que c'est aussi ça, le travail de Gustave Flaubert, aller chercher en Emma Bovary, aller créer en Emma Bovary un personnage absolument différent de lui, parce qu'il lui apparaît que c'est la tâche à la fois esthétique et éthique du romancier. Michel Vinocq.
Oui, certainement. Mais dans l'impersonnalité, il y a encore une autre dimension qui est le refus de jugement. Contrairement au romancier habituel de son temps, l'auteur ne doit pas intervenir. Et ça va lui coûter cher, du reste, puisque le procès qui est intenté à Madame Bovary est évidemment un procès sur le contenu du roman, à savoir une atteinte à la morale publique, à la religion, etc. Mais c'est aussi, au fond, un procès sur la forme littéraire. Parce que Pinard, le substitut Pinard, qui fait son réquisitoire et qui connaît très bien la littérature, qui fait même l'éloge de l'écrivain Flaubert, il va reprocher à l'auteur précisément que, au-delà de l'adultère, qui est en soi évidemment répréhensible, il n'y a personne dans ce roman pour juger du mal de l'adultère, de la faute, ni l'auteur, ni aucun personnage. Et il appelle cela le réalisme. Alors, le réalisme, en fait, c'est l'impersonnalité. Mmh. C'est-à-dire que Flaubert décrit les deux adultères d'Emma et son agonie sans aucun jugement moral. Et cette espèce de complaisance, Pinard, cette espèce de complaisance pour l'adultère, pour la volupté, etc., c'est ça qui est répréhensible. Donc c'est pas seulement le contenu, à savoir les mœurs d'Emma, mais c'est aussi qu'il n'y a pas de jugement sur ces mœurs-là, l'impersonnalité. Et c'est une révolution dans le roman. Parce que même Balzac, il intervient. Les écrivains ont l'habitude d'intervenir soit directement, soit indirectement à travers des personnages, alors que désormais, le romancier, selon Flaubert, ne doit pas être partie prenante, ne doit pas être un justicier. Il doit peindre les choses et au lecteur de juger. Du reste, Baudelaire a dit des choses absolument magnifiques là-dessus en faisant le compte-rendu de Madame Bovary. Si vous permettez, je vais lire ce que dit Baudelaire. Plusieurs critiques avaient dit « Cette œuvre vraiment belle, par la minutie et la vivacité des descriptions, ne contient pas un seul personnage qui représente la morale, qui parle la conscience de l'auteur. » Absurdité, éternelle et incorrigible confusion des fonctions et des genres. Une véritable œuvre d'art n'a pas besoin de réquisitoire. La logique de l'œuvre suffit à toutes les postulations de la morale et c'est au lecteur de tirer les conclusions de la conclusion.
Oui, c'est magnifique. Ça veut dire en effet que le mot d'impersonnalité peut avoir au moins deux significations. Sortir de sa propre personne, se détacher de soi et en effet s'abstenir de tout jugement, ce qui a été fortement reproché à Flaubert. Alors Yvan Leclerc, pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur ce procès, ses finalités, son déroulement et pour le coup sa conclusion, Yvan Leclerc?
Oui, alors, dès l'instant où Flaubert commence à écrire Madame Bovary, il sait que c'est un livre qui va faire scandale. Et alors, évidemment, il fait semblant d'être un peu surpris, et il l'est réellement, parce qu'il ne pensait pas que la justice s'en mêlerait à ce point, mais il sait qu'il fait une œuvre scandaleuse et inacceptable par rapport aux critères à la fois esthétiques et éthiques, enfin moraux de son temps. Hein. Et donc, alors, le procès, c'est une histoire qui a des ramifications et des antécédents relativement loin, puisque lorsque Flaubert pré-publie son roman dans la Revue de Paris, qui est dirigé par son ami Maxime Ducamp, ou son ex-ami, ils ont été très proches pendant le voyage en Orient, ils sont un peu éloignés après, il y a déjà des problèmes au niveau de cette pré-publication, puisque Flaubert se fait censurer le texte. Hein. Quand il récupère son manuscrit des mains de Maxime Ducamp et Laurent Pichat, qui dirige la Revue de Paris, il s'aperçoit que son manuscrit est couvert de ratures. Il y en a 71 au total. Flaubert discute, négocie, menace de retirer son roman et finalement les directeurs de la Revue de Paris acceptent de publier l'intégralité. Sauf qu'il va y avoir 6 livraisons dans la Revue de Paris et qu'à partir de là, je crois que c'est la 5e, il se trouve qu'il y a la scène du fiacre et que les directeurs de la Revue de Paris disent « la scène du fiacre, c'est pas possible, on va aller au tribunal », et donc ils la censurent.
Alors c'est étonnant d'ailleurs que la scène du fiacre ne soit pas possible, en effet, elle est très érotique, mais précisément, on ne voit rien, parce que c'est une machine, Sartre le décrit très bien d'ailleurs au milieu de la famille, une machine elle-même devenue folle, une voix à l'intérieur de cette lourde machine qui dit au cocher, continuez, et donc, voilà tout ce qu'on sait de l'adultère consommé. C'est tout à fait extraordinaire, parce que c'est vraiment, pour le coup, une boîte noire.
C'est ça, c'est le contenant qui indique le contenu.
Voilà.
Mais en fait, chez Flaubert, tout est métaphorique, c'est-à-dire qu'il ne décrit jamais, évidemment, la chose, mais il va décrire l'entourage. Même chose dans la scène du bois entre Rodolphe et Emma, il va décrire le paysage autour. Et Flaubert le dit d'ailleurs dans les notes de régie de ses plans et scénarios lorsqu'il conçoit son roman ou lorsqu'il écrit des lettres à Louis Collet qui accompagne cette écriture. Il dit il faut que le luxurieux soit en dessous ou entre les lignes. Oui. Il faut pas le dire, mais il faut évidemment que le lecteur le sente. Et là, c'est une manière alors métonymique, comme diraient les stylisticiens, les rhétoriciens, c'est-à-dire que c'est l'entourage qui va dire effectivement le luxurieux qui est central. Mais on peut comprendre quand même que d'après les canons de l'époque, c'était une scène inacceptable. Précise. En plus, elle est très longue. C'est une scène épique qui n'en finit pas. Ça fait quand même 4 pages, la scène du fiacre. Et donc, alors, le procès commence là, puisque Flaubert, à l'époque, envisage de faire un procès contre les directeurs de la Revue de Paris. Finalement, il va voir Senard qui l'en dissuade en disant « Vous allez aller les uns et les autres à la brouille ». Et donc, Flaubert demande des insertions de notes dans la Revue de Paris. Et puis, le texte paraît mutilé dans 2 livraisons successives. Et c'est à ce moment-là que le ministère public commence une procédure qui date de la fin décembre 1856, après la dernière publication, et qui va mener au procès en février de 57, avec le réquisitoire de Pinard, dont parlait à l'instant Michel Vinocq.
Comment se clôt le procès? Quel est le verdict?
Alors, le verdict, c'est un acquittement, mais c'est un acquittement avec blâme.
Ah oui, c'est ça.
Avec blâme, un blâme extrêmement sévère, si bien que quand on lit les attendus du procès qui sont reproduits dans l'édition de Jeanne Bem, qui vient de paraître dans le troisième tome des œuvres complètes en Pléiade, on se demande finalement, la logique serait été l'inculpation ou l'interdiction du livre. Et puis finalement, on dit que l'auteur a bien travaillé, qu'il est consciencieux, et finalement, on le blâme au nom d'un réalisme grossier et brutal dont parlait à l'instant Michel Vinocq, mais il est acquitté. Alors que Pinard aura sa revanche, comme on sait, quelques mois plus tard, en faisant condamner Baudelaire
dans
Les Fleurs du Mal, qui paraissent la même année.
Acquittement avec blâme, quand on lit ça aujourd'hui, on est éberlué et notre époque se convainc de sa supériorité sur ce lointain passé de l'ordre moral. Mais oui. D'un autre côté, nous sommes les témoins d'une situation, nous sommes par force les témoins d'une situation au sommet de l'État où on reproche au président de la République de n'avoir pas eu un comportement exemplaire. Et on dit, voilà, il a commis l'adultère, il a menti, ce qui est la même chose, puisque l'adultère, c'est tromper sa femme, et c'est très grave, et donc c'est comme si, d'une certaine manière, l'adultère redevenait répréhensible, et c'était assez amusant pour moi de préparer cette émission au moment où l'affaire a éclaté. Et je me suis dit que nous ne sommes pas si loin, finalement, du procès de Flaubert. Mais c'était une petite parenthèse. Je voudrais quand même en revenir à Madame Bovary, c'est moi. Donc, il se quitte, c'est en ça qu'il est un grand romancier. D'un autre côté, Madame Bovary, ce n'est pas simplement un personnage, c'est une dimension de la condition humaine qui apparaît avec Flaubert. D'où le concept de bovarisme de Jules de Gaultier. Et à ce moment-là, on peut dire... Peut-être a-t-il dit ou pensé « Madame Bovary, c'est moi » pour signifier « Madame Bovary, c'est nous tous ». Il y a une part de bovarisme en chacun, Michel Vinocq.
Oui, certainement. Et peut-être que nous devrions faire une différence ou une opposition dans le personnage d'Emma Bovary entre ce qu'elle a de singulier et ce qu'elle a de spécifique. Spécifique d'une condition humaine, disiez-vous. On pourrait dire aussi spécifique d'une époque, spécifique de la condition des femmes à une certaine époque, dont sous la monarchie de Juillet ou disons au milieu du 19e siècle. Alors, ce personnage... Et Flaubert y tient beaucoup à une dimension sociale, une dimension générale. Et dans toute son œuvre, il a tenté de faire de ses personnages ce qu'il appelle des généralités. Ainsi, lorsqu'il conseille sa maîtresse Louise Collet, qui est écrivain et qui est en train de faire le portrait d'une servante, il lui dit « Si ta généralité est puissante, elle comportera, ou du moins palliera beaucoup, la particularité de l'anecdote. Pense le plus possible à toutes les servantes. Et on sait que Madame Bovary a été accueillie par un certain nombre de lecteurs et de lectrices comme un roman vrai, quelque chose qui existait, qui était bien, qui appartenait bien à cette société. L'une de ses correspondantes, qui est devenue célèbre par ses lettres qu'elle a écrites, qui sont nombreuses et tout à fait passionnantes, et qui s'appelle Mademoiselle Leroyer de Chantepie, qui vit à Angers, quand elle lit ce roman, elle lui écrit oui. Ce sont bien là les mœurs de cette province où je suis né, où j'ai passé ma vie. Non, cette histoire n'est point une fiction. Et puis on connaît aussi le mot de Dupanloup, Monseigneur Dupanloup, qui dit « Un chef-d'œuvre, oui, un chef-d'œuvre pour ceux qui ont confessé en province. » Et l'auteur lui-même a pu dire « Ma pauvre Bovary, sans doute, souffre et pleure dans 20 villages de France à la fois à cette heure même. » Vous voyez, donc il y a une dimension, on pourrait appeler sociologique, si vous voulez, psychologique, mais en même temps, évidemment, on ne peut pas réduire Emma Bovary à un type social. Elle est elle-même, elle a sa vie propre. Ce qui lui arrive aurait pu ne pas arriver. Et alors, dans tout le roman, et c'est l'art du romancier, de pouvoir combiner, justement, la généralité et la singularité. Et pour moi, c'est ce qui fait la force du roman par rapport à l'histoire. Parce que l'histoire, elle est toujours générale. Or, Madame Bovary, elle n'est pas réductible à la statistique, n'est-ce pas ?
Non, mais ce n'est pas seulement la statistique, parce que peut-être que Madame Bovary souffre dans 20 villages, mais il y a plus que cela. Le Bovary, c'est peut-être, enfin... Jules de Gaultier le définit comme la capacité de l'homme à se concevoir autre qu'il n'est, mais c'est aussi la part d'imitation, de suggestion qu'il y a dans nos comportements les plus spontanés, les plus sincères, les plus authentiques. Elle est amoureuse à travers les romans, les mauvais romans d'amour dont elle s'est intoxiquée au couvent, où d'ailleurs la religion elle-même prenait pour elle une connotation sentimentale, hein, et comme Don Quichotte était un aventurier galvanisé par les romans de chevalerie. Il y a un don quichotisme de Madame Bovary et il y a donc une sorte de méditation sur le mimétisme, le rôle du mimétisme dans la constitution des personnalités. Et c'est pourquoi d'ailleurs on peut même parler d'un bovarisme politique. Après tout, en 68, nous étions des bovaristes, nous prenions pour des révolutionnaires, nous concevions autre que nous étions aussi intoxiqués par un certain nombre de lectures ou par un certain nombre d'images, soit de 17, soit de la résistance. Donc voilà, c'est en cela que l'idée, enfin, Madame Bovary nous poursuit, on peut dire que Madame Bovary c'est nous, Yvan Leclerc.
Oui, l'intoxication, vous avez tout à fait raison. Il y a une thématique du poison qui est constante chez Flaubert, en particulier dans une discussion entre la mère de Charles et puis Homais, pharmacien, donc qui sait de quoi il parle, où il est question d'interdire à Emma de lire. Et si on ne réussit pas à convaincre le prêteur de livres d'arrêter son commerce, on va l'accuser pour d'être un empoisonneur. Et par ailleurs, au moment de la mort d'Emma, il y a toute une longue agonie et Emma vomit. Elle vomit un liquide noir qui est, dit Flaubert, couleur d'encre. Et là, elle est en train de régurgiter l'empoisonnement par la littérature. Ceci dit, Flaubert reprend un lieu commun de la condamnation des mauvais livres, entre guillemets, en particulier par les ecclésiastiques, mais qui assimilaient la mauvaise littérature au poison.
Oui, mais enfin, en même temps, il ne le fait pas au nom du dogme religieux, il le fait peut-être au nom de la bonne littérature. Peut-être y a-t-il en effet un conflit très important entre la bonne et la mauvaise littérature pour savoir laquelle doit régir notre vie si nous sommes voués à la médiation, justement. Il y a un peu ça aussi, c'est-à-dire autant se nourrir de bons livres. La Rochefoucauld dit il y a des hommes qui ne seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient entendu parler de l'amour, d'où peut-être la nécessité d'entendre parler d'amour plutôt, je ne sais pas moi, dans Madame de Lafayette, dans Racine, que dans les petits romans ou dans les petits films, pour voir l'équivalent d'aujourd'hui, dans le kitsch littéraires et cinématographiques dont nous sommes abreuvés. Il y a peut-être aussi cette compétition-là qui se joue à travers une réflexion sur le bovarisme.
Oui, Pour Flaubert, Emma lit les livres de son temps, c'est-à-dire qu'elle lit Paul et Virginie, le grand succès du temps, on le voit dans le chapitre 6 de la première partie, et puis elle va lire évidemment tous les romantiques, Chateaubriand, le génie christianisme est cité,
Lamartine
dont parlait Michel Vinocq à l'instant. Pour Flaubert, le problème n'est peut-être pas les livres qu'on lit, mais la manière de lire. Et c'est là qu'on rejoindrait le problème de l'impersonnalité dont vous parliez. Emma lit pour ses convoitises personnelles, dit Flaubert. Elle lit en sentimental. Et la différence qu'il y a entre, non pas la mauvaise et la bonne littérature, mais entre la bonne et la mauvaise lecture, c'est que Flaubert, par exemple, lui, son idéal, c'est de lire en artiste. C'est-à-dire de lire non pas par rapport à sa propre subjectivité, à sa propre sentimentalité ou à ses besoins personnels, mais de mettre les textes à distance et d'en faire de l'art, précisément. Ce qu'Emma ne sait pas faire, s'il y a une différence entre Flaubert et Madame Bovary et Emma, c'est qu'ils ont lu les mêmes livres dans la jeunesse de Flaubert. Mais lui, il en a fait quelque chose. Il l'a transformé par son regard, par la distance critique et ironique, en objet artistique, ce qu'Emma n'est pas capable de faire. Au fond, son problème à Emma, c'est que ce n'est pas une artiste.
Oui, mais tous les hommes ne sont pas des artistes. Et on peut se demander pourquoi lit-on. Parce que j'ai sous les yeux cette très belle phrase de Ricoeur. « Que serions-nous de l'amour et de la haine, des sentiments éthiques et en général de ce que nous appelons le soi, si cela n'avait pas été porté au langage et articulé par la littérature ?» Donc nous avons aussi besoin de la littérature pour en savoir plus et peut-être aussi pour vivre mieux, plus intelligemment.
C'est ça la différence, c'est que Emma Bovary ne lit pas pour savoir, mais elle lit pour vivre à la hauteur des livres qu'elle lit. Et au fond, elle veut s'assimiler aux héroïnes par le mimétisme dont vous parliez tout à l'heure. Son drame, c'est que sa vie est une vie médiocre et elle rêve que cette vie soit à la hauteur des livres qu'elle lit. Emma, c'est quelqu'un qui vit dans le sublime. Si on se réfère aux catégories stylistiques de l'ancienne rhétorique, on a le médiocre, le tempéré et le sublime. Le problème d'Emma, c'est qu'elle épouse Charles, qui est un médiocre, mais il vit très bien dans sa médiocrité. Elle vit dans la médiocrité provinciale et elle a des aspirations au sublime au sens de stylistique. Madame Bovary, c'est un conflit du style sublime avec le style médiocre.
Alors Michel Vinocq, oui, j'aurais une question là-dessus aussi à poser, parce que il y a deux personnages de la littérature qui ont subi de la part de certains lecteurs, un sort très paradoxal. Miguel de Unamuno a dit que Cervantes avait calomnié Don Quichotte. Il a repris Don Quichotte à Cervantes, il dit non, c'est pas ça. Donc il a reproché au créateur d'avoir en quelque sorte dit du mal de sa créature. Et Rousseau a fait la même chose dans la lettre sur le spectacle, avec Alceste. Hein, il a dit, non, Molière a diffamé Alceste, je vais vous dire la vérité d'Alceste. Est-ce qu'il y a eu une tentative de cette sorte pour Madame Bovary? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit, bah oui, elle a une aspiration au sublime, et la sévérité de Flaubert à son égard est tout à fait scandaleuse? Est-ce que quelque chose comme ça est arrivé?
Chaque lecteur, ressent à sa façon, n'est-ce pas, cette question que vous posez. Moi, je ne vois pas Flaubert impitoyable avec Emma. Au contraire, j'ai parlé tout à l'heure de sa solidarité. Et c'est ça que je ressens. Alors, bien sûr, il y a cette ironie flaubertienne qui est dans tous ses livres, et en particulier dans Madame Bovary. Et à propos des livres qu'elle lit, ce n'est pas tellement elle-même qui est visée, c'est plutôt sa belle-mère, c'est plutôt Homais, c'est tous ceux qui professent, n'est-ce pas, l'interdiction de la lecture aux jeunes femmes parce que ça les fait rêver et que c'est très très dangereux. Il y a même des passages qui ont été supprimés par Flaubert parce qu'il, quand il a préparé son édition définitive, il y a un grand passage où il y a une discussion sur la lecture qui est passionnante. Et vraiment, Flaubert se moque, n'est-ce pas, de ces interdictions, de ces tabous. Alors, il y a ça aussi.
Mais il n'y a pas eu de critique à la Unamuno ou à la Rousseau pour dire non, je vais vous dire, moi, la vérité de Madame Bovary.
Au contraire, vous savez, en général, la critique a été une critique morale pour dire que, nous le disions tout à l'heure, du reste, que dans ce livre, on ne juge jamais les actes d'Emma Bovary, alors qu'ils sont très répréhensibles et très coupables. Donc, je ne vois pas cela, non, je ne pense pas. Et s'il se moque un peu d'elle, bien sûr, parce qu'il se moque de tout le monde, il y a quand même, je crois, une affection pour elle. Et en particulier à la fin, écoutez cette fin qui est absolument magnifique.
Oui, l'agonie est
on ne peut pas dire qu'il condamne Emma Bovary.
Non, il compatit, c'est vrai. Yvan Leclerc.
S'il y a une critique de réhabilitation, c'est plutôt celle qui s'occupe de Charles, qui trouve que Flaubert a très mal traité Charles. Et là, on pourrait citer des exemples. Pour la critique dont vous parliez, qui souligne les qualités éminentes d'Emma, il y a quand même deux exemples qui viennent à l'esprit. Il y a Baudelaire, qui sans doute a écrit la plus belle critique qu'on ait jamais faite sur le livre de Flaubert, où il montre une Emma poète. Une Emma poète. Et puis il y a Gracq.
Oui, alors ça, voilà.
Alors si vous avez le texte de Gracq, il parle d'un flambeau planté dans la campagne normande. J'ai oublié l'exemple, et c'est magnifique.
L'intensité de la flamme vive qui plante son héroïne au milieu du sommeil épais d'un trou de Normandie comme une torche allumée. Je suis sensible au beau combat d'Emma. Je suis plus sensible au beau combat d'Emma qu'à sa défaite, qui n'est nullement dérisoire, comme on le dit trop souvent. Car en somme, tout ce qu'il est possible de tenter, dans sa situation, dès le début sans espoir, elle le tente, non sans hardiesse. Et la passivité nostalgique et fascinée, qui a gardé le nom de bovarisme, n'a que très relativement à voir avec un esprit de décision qui, dans le livre, va plus d'une fois jusqu'à l'intrépidité. Dans les dernières scènes, où Flaubert d'ailleurs bascule ostensiblement du côté de son héroïne, c'est ce que vous disiez, Michel Vinocq, la placidité bovine d'Yonville en est perturbée. Cette flammèche de passion errante est à deux doigts de mettre le feu à un village, pourtant si exemplairement ignifugé. Fureur d'un vouloir vivre effréné, dit Julien Gracq. Et c'est très intéressant, parce que c'est comme ça qu'il justifie son choix. Je l'ai dit au début, il y a deux catégories. Lui, il a choisi Madame Bovary. C'est son camp parce qu'il ne supporte pas dans l'éducation sentimentale la volonté de dégoût avec laquelle Flaubert traite presque tous ses personnages. Et il y a énormément de dérision dans Madame Bovary, Bournisien, Homais, enfin ce sont des personnages. Oui, il y a un aspect de satire, de sarcasme même chez Flaubert. Mais en effet, Madame Bovary, Emma Bovary, il s'en moque, mais elle est épargnée. Elle ne subit pas le sort de tous les autres. Et c'est effectivement ce pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles Julien Gracq choisit Madame Bovary. Est-ce que ce serait aussi votre choix, Yvan Leclerc?
Par rapport au roman de Flaubert?
Par rapport au roman de Flaubert.
Ah non, moi le roman que je préfère, c'est Bouvard et Pécuchet.
Ah oui.
Ah oui, alors vous parliez de deux catégories de lecteurs, moi j'appartiens à une troisième catégorie, Bouvard et Pécuchet, pour moi
c'est... Il y a aussi un cœur simple, c'est peut-être une catégorie.
Oui, alors, je pense c'est une nouvelle, oui.
Mais il y a aussi des gens qui sont très attachés à
Et puis Salammbô, il y a des gens qui sont tombés en admiration devant Salammbô, qui est un magnifique poème épique, alors c'est vrai qu'il est un peu marginal par rapport à la communication. Mais alors pour revenir à ce que vous disiez, et à ce que disait Gracq, effectivement, s'il y a un personnage qui incarne l'énergie, la volonté dans le texte, c'est Madame Bovary, à tel point d'ailleurs que ça aussi c'est une subversion des critères moraux de l'époque et qui va être reprochée à Flaubert, c'est-à-dire qu'elle va dominer les hommes. Il va y avoir une inversion entre le sexe fort, comme on disait à l'époque, et le sexe faible. Flaubert parle de la lâcheté du sexe dit fort. Et Emma va prendre le contrôle, en particulier dans les relations amoureuses.
Avec Léon.
Il y a une magnifique phrase qui dit « Léon était plutôt sa maîtresse qu'elle n'était la sienne ». Et ça, on va reprocher, Pinard, justement, dit
c'est la virilité d'Emma.
Voilà, c'est pas possible de mettre du désordre dans la société, mais aussi du désordre dans la répartition entre les sexes.
Et Baudelaire dira qu'elle est androgyne. Elle est androgyne. Oui. Elle est homme et mâle autant que femme.
Alors, moi je dirais en effet, très brièvement, les raisons pour lesquelles je choisis Madame Bovary, c'est surtout en raison du style, de la beauté des phrases. Je suis fasciné par la beauté des phrases. Il me semble, et c'est là une question sur laquelle on pourrait réfléchir un peu, que le pari de Flaubert est tenu, et c'est un pari inouï. Il dit « la prose est née d'hier ». Pourquoi ? Parce que il a voulu, lui, soumettre la prose romanesque à une exigence de musicalité aussi forte que la poésie. Et Mario Vargas Llosa, dans L'Orgie perpétuelle, donne un exemple. Lorsque paraissent les premiers chapitres de la Revue de Paris, on lui demande de changer le nom de Journal de Rouen, parce qu'il existe. Et on lui dit le Progressif de Rouen. Et il est furieux, ça va casser le rythme de mes pauvres phrases, c'est grave. Et finalement, il trouve un même nombre de syllabes et se terminant de façon identique, le Fanal de Rouen. Et quand je lis une phrase comme « Mes ailes, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord et l'ennui araignée silencieuse filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur », je suis émerveillé, comme par un poème, comme par un poème.
Petit Michel commentaire Vinoc. De Flaubert lui-même, « Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers inchangeable, voilà. Aussi rythmé, aussi sonore. » Alors pour y arriver, évidemment, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Et c'est, on a pu dire sottement, n'est-ce pas, que Flaubert avait du mal à écrire. Pas du tout. Quand on voit sa correspondance, on voit qu'il a une écriture spontanée et n'a aucun embarras pour écrire. Mais son exigence esthétique est telle que, voilà, il met des jours et des jours, des heures et des heures pour arriver à cette phrase inchangeable.
Et une exigence esthétique qui est indissolublement une exigence de vérité, puisqu'il dit « la phrase juste est en même temps la phrase harmonieuse ». Et il dit « la littérature doit prendre les allures de la science, devenir exposante, ce qui ne veut pas dire didactique ». Et certains se sont enchantés de son formalisme avec cette phrase « un livre sur rien », mais il y a chez lui vraiment une coïncidence absolue de l'exigence stylistique de poésie et de musicalité et l'exigence de justesse
et de vérité. Et de vérité. Alors, Michel Vinoc. C'est, pour l'historien, c'est magnifique parce qu'il est tellement scrupuleux, il recherche tellement dans le détail le plus infime l'exactitude du fait qu'on peut le considérer parfois dans certains de ses chapitres comme un véritable historien. Et ensuite, il a évidemment une vision de son époque. Et dans Madame Bovary, il y a cette dimension historique. Voyez par exemple le personnage de Homais, personnage central. En dehors de Madame Bovary, c'est le personnage peut-être principal, comme sa pharmacie est au centre, n'est-ce pas, du bourg d'Yonville. Or, Homais représente admirablement son siècle. Son siècle. Il est partisan du progrès, de la science. Il dit qu'il faut marcher avec son siècle. Et il a effectivement, Flaubert lui donne tous les attributs de l'esprit fort, celui qui a compris que la religion c'est fini, que la science c'est l'avenir. Et je pense aussi, en disant cela, à Ernest Renan, qui va publier son livre, qui va écrire un livre en 1848, « L'avenir de la science », cet avenir qui, évidemment, incarne le siècle, qui illustre le siècle. Pour moi, écrit Renan, je ne conçois la haute science, la science comprenant son but et sa fin, qu'en dehors de toute croyance surnaturelle. Renan le dit, mais Homais le dit exactement à sa manière. Donc c'est un personnage tout à fait remarquable, ridicule, parce qu'il est pédant, il est grotesque, c'est un philanthrope mais qui aime l'humanité, mais qui n'aime pas les individus, enfin, etc. C'est une charge formidable. Et je crois que Flaubert a réussi à créer un personnage qui n'est pas seulement un personnage littéraire, mais qui est bien un type social intellectuel de la moitié du 19e siècle.
Yvan Leclerc, vous souscrivez à
cette... Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Flaubert écrit avec Madame Bovary un roman qui apparemment est anhistorique. Il n'y a pratiquement pas de date dedans. Et comme dit Michel Vinoc, il est parfaitement intégré dans son temps, dans ce coin de province. Le sous-titre est « Meurs de province », il ne faut jamais l'oublier. C'est un titre un peu balsacien, mais finalement qui inscrit la province dans le roman. Alors, et la politique est partout. en particulier dans le fameux discours de Lieuvin pendant
les comices agricoles
qui commence par un éloge de la monarchie, qui va se continuer par un éloge de la religion comme soutien à la politique, et Flaubert et par un discours qui est un discours consensuel où toutes les classes sociales doivent s'entendre. Et après le discours, Flaubert a cette phrase qui va casser le beau consensus, qui dit « Et les maîtres recommencèrent à rudoyer les domestiques ». Et donc il y a, et puis aussi cette servante,
oui, Catherine Leroux.
Voilà, de ce demi-siècle de servitude qu'on est en train de couronner. En fait, il y a les tensions sociales qui sont constamment présentes à l'intérieur de notre texte. Il y a aussi autre chose qui est tout à fait intéressant sur le plan social et politique, c'est que Emma Bovary est probablement la première héroïne et victime de la société de consommation.
Oui, c'est vrai.
Le mot consommation intervient à plusieurs reprises dans le texte. Il est question des consommations de son cœur et évidemment l'heureux, le marchand de nouveautés, comme on dit, hein, terme très moderne, marchand de nouveautés, a un rôle tout à fait important. Et il ne faut jamais oublier qu'Emma se suicide par désespoir amoureux, mais aussi parce qu'elle a des dettes.
Elle est endettée, oui.
Elle est endettée.
Elle est endettée jusqu'au cou et ne veut pas s'en sortir. Mais
donc c'est pas seulement un suicide amoureux
romantique. Dimension historique, dimension sociale et certains aspects prémonitoires, mais un peu comme le bovarisme, il y a aussi une puissance qui va au-delà. Flaubert me semble découvrir une structure ontologique de l'existence humaine avec la bêtise, parce que Homais, c'est la bêtise. Et Flaubert était, vous parlez de Bouvard et Pécuchet, fasciné, passionné par la bêtise. Alors, quelquefois, il dit « Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m'étouffent. Il me monte de la merde à la bouche comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la durcir. J'en veux faire une pâte dont je barbouillerai le 19e siècle comme on dore de bouse de vache les pagodes indiennes. Et qui sait, cela durera peut-être. » Mais il y a bien plus qu'un règlement de compte, exactement comme pour le mimétisme de Madame Bovary. Il y a la bêtise qui nous attend tous, puisque ce qui est extraordinaire, c'est Monsieur Homais, c'est l'homme des Lumières.
Oui.
Donc, les Lumières qui combattent la superstition, qui combattent les préjugés, etc., qui combattent la bêtise. Il y a, à travers Monsieur Homais, une bêtise des Lumières qui est celle de l'esprit du temps, au fond, et Heidegger dira le « on », la dictature du « on ». Nous nous réjouissons comme on se réjouit. Il dit même « nous nous écartons de la masse comme on s'en écarte, nous nous indignons comme on s'indigne », et c'est ce « on » que Flaubert, en quelque sorte, ne cesse de traquer jusque dans les manifestations d'une pensée qui se croit émancipée de tous les stéréotypes.
Oui, sans aucun doute, mais j'aurais tendance à historiciser un peu cette bêtise, parce que c'est une protestation contre le monde moderne, qu'incarne le 19e siècle. Flaubert est un anti-moderne et il proteste contre les techniques modernes. Que dirait-il aujourd'hui, évidemment ? Même le chemin de fer lui fait horreur, bien qu'il le prenne, etc. Et cette bêtise-là, c'est un rejet profond du siècle. Qu'est-ce que c'est que ce siècle ? Tocqueville l'a très bien montré, c'est la naissance progressive, la maturation progressive de la société démocratique. Le « on » heideggerien, c'est celui de la société démocratique où il y a l'égalité, tout au moins en principe. Chacun doit être l'égal de tous et de chacun. Et Flaubert ne peut pas supporter cela. Il y a chez lui, on pourrait dire, un aspect aristocratique, en particulier pour les arts et les lettres, qui lui fait rejeter cette société-là. Il n'en veut pas. Mais alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, en même temps, Flaubert n'est pas ce qu'on appelle un contre-révolutionnaire, parce que le contre-révolutionnaire, il défend l'alliance du trône et de l'autel, or lui, il rejette la religion aussi, et dans Madame Bovary, il y a une scène qui me paraît hautement symbolique. Homais et le curé bournisien sont toujours en train de se chamailler avec des arguments, les uns religieux, les autres philosophiques, et tous les deux, il se trouve qu'ils veillent la morte. Emma Bovary est morte, tous les deux sont de part et d'autre de sa dépouille et continuent à se chamailler jusqu'au moment où, la fatigue arrivant, ils se disent « nous finirons bien par nous entendre ». Et c'est ce qui s'est produit historiquement en 1850, lorsque la bourgeoisie anticléricale avec Monsieur Thiers, Adolphe Thiers, a fini par voter la loi Fallou, qui est la réconciliation de cette bourgeoisie anticléricale avec la bourgeoisie cléricale.
Il se produit aussi un autre phénomène en 2014, une réconciliation. Vous dites que Flaubert n'aime pas le monde moderne. Le pape François vient de déclarer qu'Internet était un don de Dieu. Voilà, si vous voulez, une synthèse inattendue entre l'abbé Bournicien et M. Homais. En plus, ce pape a le cœur sur la main, donc notre époque l'adore. Mais quand même...
On peut l'ajouter au dictionnaire des idées reçues.
Oui, Yvan. Et alors justement, Internet, continuons. Continuons. De Dieu. Parce que dictionnaire des idées reçues, on pense que les idées reçues, ce sont les vieux proverbes. Mais il y a les idées reçues
du temps,
de l'époque. Et aujourd'hui, on est obligé de penser à Flaubert. Quand on voit des reportages s'ouvrir sur la nécessité, par exemple, de déconstruire les stéréotypes de genre jusqu'à l'école maternelle à l'école communale. Déconstruire les stéréotypes de genre, déconstruire les stéréotypes, c'est la phrase la plus stéréotypée de l'époque. Donc, il y a une époque où on croyait à la nature, ce qui était très dogmatique, mais il y a une manière très dogmatique aujourd'hui, très suffisante, de dire, bah oui, la nature n'existe pas. De même, ça concerne aussi la bourgeoisie quand même, et ça concerne le 19e siècle. La rupture de notre siècle avec le 19e est totale, puisque les Verts ont fait voter un amendement réclamant la suppression de l'expression en bon père de famille du droit français. On ne doit pas gérer en bon père de famille, parce que bon père de famille, c'est le syntagme d'une société patriarcale. On ne veut plus de ces vestiges. Or, c'est un penseur.
Dites-moi, Alain. Vous devriez écrire le nouveau dictionnaire des idées reçues.
Et alors à ce moment-là, je citerai avec grand plaisir un des penseurs de l'écologie, Cornelius Castoriadis, qui dit « La sortie de la misère des pays pauvres ne pourrait se faire sans catastrophe que si l'humanité riche accepte une gestion de bon père de famille des ressources de la planète, un contrôle radical de la technologie et de la production, une vie frugale. » On ne comprendra bientôt plus cette phrase, parce que notre époque rompt les amarres avec son histoire, sa civilisation, son passé. Et cette suffisance, à tous les sens du terme, c'est la bêtise. Donc on est ramené à Flaubert, quand même. Ouais. C'est très ancré dans son histoire, mais cette histoire est encore la nôtre, Yvan Leclerc.
Oui, la suffisance de la bêtise nous ramène à Homais, bien sûr. Flaubert perçoit la bêtise d'une différente manière, nul n'y échappe. Elle est omniprésente, voilà. Et universelle, généralisable, mais il l'aperçoit essentiellement dans les discours. D'où l'idée de relever des phrases, des expressions stéréotypées, comme vous disiez, dans le dictionnaire des idées reçues. Et si Homais incarne précisément cette bêtise, c'est parce que Homais, c'est l'homme du discours. Homais parle. Il y a un moment, la visite à la fabrique avec Léon et Emma, et on a simplement cette phrase « Homais parlait ». Tout est là, c'est-à-dire c'est l'homme du discours plein, c'est l'homme des certitudes. Et ce qui est troublant avec lui, c'est que Homais est intelligent. Homais sait beaucoup de choses. Et Flaubert nous met en face de cette contradiction qui sera aussi celle de Musil, qui a une bêtise de l'intelligence. Et c'est en ce sens que peut-être personne n'y échappe. Et la bêtise de l'intelligence, c'est échappe, celle, oui, de la suffisance dont vous parliez. C'est-à-dire, Flaubert avait horreur des figures de l'autorité. Et celui qui parle avec autorité, c'est-à-dire qui n'introduit pas précisément de distance critique par rapport à ce qu'il dit, qui n'introduit pas de doute, c'est une figure de la bêtise, et en ce sens, Homais. Mais inversement, Charles est aussi une figure de la bêtise, alors que Charles n'a pas de discours.
Il n'a pas de certitude.
Oui, il a une conversation plate comme un trottoir
de rue, et les idées de tout le monde y défilent.
Voilà.
Mais ça, c'est une bêtise, en quelque sorte, par défaut.
Dans leur costume ordinaire.
Par absence. Puisque Charles est du côté du rien. Après sa mort, on l'ouvre et on ne trouve rien. Voilà. Mmh. Et là aussi, c'est une forme de bêtise qui serait proche de celle de Félicité. Qui est d'ailleurs inspire une certaine sympathie à Flaubert. Il y a une bêtise qui est une sorte de communion naturelle avec les éléments, avec la nature, avec les bêtes, etc. Qui est, alors, la bêtise au sens d'animalité même de l'homme, qui est une part que Flaubert revendique, bien entendu.
Mais alors, Flaubert disait, l'ineptie, c'est de conclure. Et en même temps, un auteur important, mineur mais important, André Suarez, lui reprochait d'être catégorique. Il crée des types, mais tous ces héros, dit André Suarez, sont devenus proverbes. Par malheur, presque tous, ils sont bas, presque tous, ils ont l'âme nulle. Comme si, effectivement, il avait voulu trop vite conclure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce grief qui rejoint un peu celui de Julien Gracq quand il ne supporte pas le dégoût de Flaubert pour tous les personnages de l'éducation sentimentale.
Oui, il y a quelque chose de vrai dans cette affirmation, parce que dans Madame Bovary, et on retrouvera la même chose dans l'éducation sentimentale, beaucoup de ces personnages sont des stéréotypes. Ils sont véritablement figés dans leur représentativité. Il y a l'heureux qui est le percepteur qui fait des affaires sur le dos des autres. Il y a le notaire. Tous ces personnages secondaires, n'est-ce pas, sont très typés et n'ont pas tellement d'étoffe. Ils n'évoluent pas, si vous voulez. Dans l'éducation sentimentale, il y a toute une sarabande de personnages. Et j'en profite pour dire au passage, puisque vous avez fait un petit concours tout à l'heure, que moi, c'est mon roman préféré l'éducation sentimentale.
C'est très bien. C'est très bien, parce que c'est parti autour de la table. Alors, on est très écuménique. Il y a l'éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet et Madame Bovary.
Et pour des raisons que nous n'avons pas, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Comme quoi, dans l'œuvre de Flaubert, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les passions.
Absolument. Une conclusion, Yvan Leclerc ?
On ne peut pas conclure, puisque Flaubert dit que c'est la bêtise qui consiste à vouloir conclure.
Mais est-ce que lui conclut trop ?
Non, je crois qu'il y a plusieurs types de conclusions. Il y a des conclusions narratives, et les romans de Flaubert sont conclus par la mort d'Emma. Et puis, il y a une conclusion, ce qu'il ne veut pas, c'est la conclusion morale, le fait d'avoir le dernier mot. Mmh. On n'a pas le dernier mot, il n'y a que Dieu, dit-il, qui a le dernier mot. On ne peut pas se mettre en position de Dieu.
Très bien, ben voilà. Donc, pas de dernier mot, sauf simplement pour rappeler, Michel Vinocq, le titre de votre biographie, Flaubert, tout simplement. Le livre est publié aux éditions Gallimard. Et puis, j'ai relu avec plaisir Madame Bovary dans une édition que vous avez établie, Yvan Leclerc, chez Droz, avec une introduction au trait de l'original de 1857, annotée par Gustave Flaubert. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Les enjeux de la guerre en Syrie ». Mes invités seront Jean-Pierre Fidu et Renaud Girard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Frédéric Changenet. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.